On va chapitre 11, verset 1, c'est-à-dire dans la sixième montée, après le Vaïbinsou Aaron. Vaïhi ha'am, ke mit'onenim ra be'ozne Hashem, vaishma Hashem vaicharapo, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. Donc les Bnei Israël ont cherché des sujets de récrimination. Hachem n'a pas beaucoup apprécié, ni Moshe Rabbeinu. Et Hachem a entendu, après avoir entendu ces récriminations, sa colère s'est enflammée. Il y a un feu d'Hachem qui s'est déclaré à l'extrémité du Mahané, du camp. Donc le peuple a supplié Moshe d'intervenir. Moshe a prié. Le feu s'est éteint. Et cet endroit est appelé, porte un nom qui indique ce qui s'était vraiment passé là. Shema Makom Ahu Tav Era. Ivarabam Esh Hashem. On appelle Tavera parce que le feu d'Hashem avait brûlé parmi eux. Il y a donc la racine de cette consommation de ce feu dans ce mot-là. Mais Aspasouf, alors ils ont traduit la populace. Certains disent que c'est ce qu'on appelle par ailleurs le Erev Rav. Ces gens-là, Itavu Tava. Littéralement, ils ont désiré du désir, littéralement. Et ils se sont mis à pleurer. Et les Bnei Israël ont pleuré avec eux. Et ils se sont plaints en disant, mais qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Bon, et puis il y a toute la recette de cuisine, là, ce qu'on mangeait en Égypte avec le poisson. Ve'ata, et maintenant, en verset Vav, Nafshenu Yevesha. Littéralement, notre vie, notre âme est desséchée. En kol, il n'y a rien. Bilti Elaman enenu. Tout notre horizon, c'est la manne. Et alors, on décrit la manne. Bon. Bon, la description. Au verset Yud, Vaishma Moshe et Ta'am, Bochel Mishprotav. Moshe a entendu le peuple pleurer. Ils ont traduit dans le stone, groupé par famille. Ish le fait à Haolo. Chacun était à l'entrée de sa tente. Vaichar af Hashem me'od. Et là, du coup, Hashem s'est mis dans une grande colère. Uvene Moshe ra. Aux yeux de Moshe, c'était vraiment mauvais. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit à Hashem, Lama reota lavdecha. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ton serviteur? Donc pourquoi est-ce que tu m'as fait du mal à moi, Moshe? Lama lo matsati chen beinecha. Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? La sum et masach ola amaze. Tu as mis toute la charge de ce peuple sur moi. Est-ce que ce peuple-là, je l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme une nourrice porte le nourrisson, vers la terre que tu as juré de donner à ses ancêtres? D'où aurais-je de la viande à donner à tout ce peuple alors qu'il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande que nous puissions manger? Et là, Moshe dit quelque chose de terrible. Il dit, je ne puis moi seul porter toute cette nation. Elle est trop pesante pour nous. C'est trop lourd pour moi. Et si c'est ainsi que tu agis envers moi, alors tue-moi maintenant. J'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. Mon cher Rabbeinu, ici, il donne sa démission. Alors Hachem répond, il lui dit, Esfali, Shivimish, rassemble-moi 70 personnes. Ces gens, tu les prendras, mais Zikné Israël, parmi les anciens d'Israël, Haam, donc tu sais qu'ils sont les anciens du peuple, le Shotrav et ceux qui l'ont dirigé, Moed, tu les amèneras à la tente, au tabernacle, au El Moed, Vityasvusham Imar. Ils se tiendront là-bas avec toi. Imcha. Et je descendrai, je parlerai avec toi là-bas. Alecha. Alehem. Et je prendrai une partie du ruach, de l'esprit qui est sur toi, et je le poserai sur eux. Ils porteront avec toi la charge du peuple. Velotissa ata levadecha. Tu ne porteras pas tout seul. Bon. Mon cher Rabbeinu, ici, comme je vous ai dit, donne sa démission. Et on doit se demander, évidemment, ce n'est pas la première fois que le clan d'Israël réclame, pleure, grogne. Et les autres fois, mon cher Rabbeinu n'a pas offert sa démission. Qu'est-ce qu'il y a ici de si particulier que Moshe Rabbeinu est obligé de donner sa démission et que Hachem ne lui dit pas je vais t'aider, tu vas y arriver. Non, pas du tout, d'accord, j'accepte. Alors, avant de regarder plus avant, regardez comment les choses se font. Hachem dit à Moshe, je vais prendre une partie de ton inspiration, de ton esprit, et je vais le leur donner. Je vais le répartir sur les 70 membres de ce Sanhédrin, en quelque sorte. Ça veut donc dire que Hachem ne va pas adjoindre à Moshe Rabbeinu des gens qui vont apporter une énergie extérieure. Ça se fait, si vous voulez, on peut dire, ça se fait à énergie ou à rouage constant. D'accord? Ce que les assistants de Moshe, les aides de Moshe, vont avoir comme inspiration, comme force pour diriger avec Moshe, ce n'est pas une force qu'ils ont par eux-mêmes, ce n'est pas une force qu'Hachem leur donne à eux directement, une nouvelle force. Hachem leur donne quelque chose que Moshe avait. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, en fait, il avait la force de diriger, puisque ceux qui sont adjoints là maintenant à Moshe, ils ne reçoivent pas un supplément d'énergie, disons, dans notre langage. Ils ne reçoivent que de l'énergie qui est prise sur Moshe. Alors on peut, bien entendu, comme il s'agit de choses qui sont infinies, On peut enlever quelque chose à Moshe et il va rien lui manquer à Moshe. D'accord? Si vous enlevez de l'infini à l'infini, ça reste toujours infini. Mais là, la première chose, c'est que Hachem accepte la démission de Moshe Rabbeinu, enfin, la démission de Moshe Rabbeinu comme unique leader. Il admet que Moshe Rabbeinu a besoin d'aide, d'assistant. Mais maintenant, nous, on a une question. D'accord, la Torah, elle est jusque-là même et plus et au-delà. Elle est pleine de situations où Moshe Rabbeinu est intervenu, juste avant d'ailleurs. Il vient intervenir pour arrêter le feu. Et par la suite, Moshe Rabbeinu va intervenir. Et on ne dit pas que les autres sont intervenus avec lui. On ne le dit pas explicitement. C'est Moshe Rabbeinu qui va agir. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut qu'on regarde la paracha ici pour savoir qu'est-ce qui se passe ici qui justifie que Moshe Rabbeinu dise, pousse, j'arrête. Je ne peux pas continuer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'y voir un peu plus clair? Du texte qui parle de Moshe, on ne peut rien tirer parce que Moshe dit, j'ai pas la force, je ne peux plus. Il n'y a pas plus. Alors, où est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut regarder dans le texte qui va nous aider à comprendre un peu et de trouver une solution à la question? Comment est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va trouver de l'information qui va nous permettre de comprendre pourquoi ici en particulier mon cher Rabbeinu a démissionné. Quels sont les éléments que vous avez? Pardon? Alors, il y a ce qui s'est passé avant, peut-être, effectivement. Quels autres éléments est-ce qu'on a? Parlons-le. Au peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais ça, c'est déjà presque après, quoi. Une fois qu'il lui a donné les 70, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais on n'a pas encore bien vu. Mais bon, il a les 70 membres du Sanhédrin qui vont l'aider.
Rav,
On a d'autres éléments. Oui?
c'est peut-être la première fois que ce n'est pas Moshe n'en est pas n'a pas après le peuple. Il se plaint lui. Il en peut plus lui. C'est-à-dire qu'il a.
Non, effectivement, vous avez raison. Il dit, je ne peux plus continuer.
Voilà,
Donc,
alors que d'habitude.
OK, mais pourquoi il ne peut plus? Qu'est-ce qu'il y
Il
a de
plaidait pour le
particulier
peuple,
ici?
là il plaide pour lui. Peut-être qu'il faut
Hmm?
il faut
Il
étudier
ne
le
plaide
Talmud
pas.
Chorénim.
Pardon?
J'ai dit, peut-être qu'il faut s'arrêter sur le mot mit onénim.
Vous pouvez,
Parce
mais il y a
que
d'autres
j'ai dit
éléments.
Aya.
Vous n'avez pas regardé le texte. Bon, ça, c'est des éléments sur le peuple. Est-ce que c'est vraiment ce point-là qui... C'est là? Non, non, mais ça, le Shem s'est déjà mis plusieurs fois en colère contre eux. Mais
Oui.
c'est pas que C'est pas que Moshe Rabbeinu ne supporte pas la colère divine. Quand Hachem se met en colère, il envoie du feu. Moshe Rabbeinu intervient, il arrête le feu. Mais là, il démissionne. Et il dit, je ne peux pas continuer. Pourquoi il ne peut pas continuer? D'accord, mais ça c'est eux, ils
Parce
sont
qu'il
mauvais, mais ils ont déjà été mauvais, ils ont déjà grogné parce qu'il n'y avait pas d'eau douce, on leur a donné de l'eau douce, etc. Là, Moshe n'a pas démissionné. Pourquoi il démissionne ici?
Ça le... Oui, parce qu'il ne veut pas être témoin de son malheur. Parce qu'il est
Bon,
témoin de leur
mais.
malheur. De...
Non, mais le problème, c'est pourquoi dans ce cas-là,
Oui.
de ce malheur-là, il ne veut pas être témoin, etc. Mais pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas démissionné? Il manque pas d'épisode où, effectivement, il aurait pu démissionner.
Parce qu'il n'a pas été à hauteur de la tâche.
On parle ici, voilà, oui, continue. Oui. Quelqu'un voulait dire quelque chose dans les extérieurs? Non, ils ont déjà dit en Nitnaroche.
Oui, il faut pas.
Oui, bon, c'est pas ça qu'il.
C'est moi, mon rien.
Non, pas vraiment. C'est pas ça la raison. Oui, non, ce n'est pas la première fois. C'est justement le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a de. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'est-ce qu'il y a de si spécifique ici qui puisse nous. Ça va nous aider à comprendre la situation de Moshe Rabbeinu, la situation de tout leader du clan Israël.
Est-ce que c'est pas parce que cette fois-ci on désigne directement le Erev Rav qu'il a accepté de
Non,
récupérer?
non, 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 non.
J'ai accepté de faire une dorée devant Hachem et entre le peuple et Hachem. Et là, il prend titre personnel maintenant.
C'est pas qu'il le prend à titre. Bien sûr, il le prend un petit personnel, sinon il n'aurait pas démissionné. Mais pourquoi ici il le prend? Qu'est-ce qu'il y a ici qui l'oblige? Pardon? Oui? Donc ça veut dire quoi? Bon, alors qu'est-ce qui dit le Sforno là? Ne me lisez pas ce qui est écrit dans le Sforno, venez de le lire. Expliquez le Sforno.
Des parents ne trouvent pas que dégager des éducations qui vont vis-à-vis de leurs enfants, c'est pour faire le vite. Donc voilà, quelque part, ils disent, si tu as arrêté mes enfants, tu aurais pu les prendre à la charge, mais si tu ne prends pas mes enfants, alors tu ne peux pas les prendre à la charge.
Bon, c'est dans la bonne direction, c'est pas exactement ça. Ce que vous devriez faire, c'est regarder par qui est-ce que Moshe Rabbeinu est aidé. Regardez qui sont les gens qui doivent l'aider. Oui, les Shotrim, la référence Shotrim, on avait en son temps on l'avait dit que
Les anciens
ces
chefs
gens
de
qui
soirée.
ont choisi sont ceux qui ont évité au Bnei Israël de se faire battre par les capots égyptiens et qui ont été battus eux à la place des Bnei Israël. Quand les Bnei Israël, avec toutes les contraintes qu'on leur a mis, ils n'arrivaient pas à produire la quantité de briques qu'ils étaient censés produire, et donc ils allaient être battus, et les chefs d'entre eux, là, ces Shotrim, là, ils ont dit non, c'est notre faute. Et ils se sont fait battre à la place des Bnei Israël. Ils étaient Bnei Israël aussi, mais ils ont pris sur eux. Donc, il y a quelque chose de particulier chez ces gens-là qui les a qualifiés pour cela. OK, ça c'est une première chose. Et maintenant, pourquoi Moshe dit ici, je ne peux pas? Pourquoi il ne peut pas? Parce que qu'est-ce qu'ils demandent, les Bnei Israël, ici? Ils demandent de la viande. Moshe Rabbeinu, ils ne comprennent même pas ce qu'ils veulent. Ils ont de la manne, ils ont le lot, ils sont pris en charge complètement par Hachem. Et ils veulent de la main. Mon cher Abbé ne lui comprend pas, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, ce genre de choses, je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas de taille que ça soit, peut-être comme vous avez dit, si j'avais été leur père, alors j'aurais peut-être pu comprendre. Mais mon cher Abbé nous dit ici, moi, je ne comprends pas. Et je ne peux pas comprendre, donc je ne suis pas qualifié pour moi tout seul porter cela. Ce n'est pas que je n'ai pas la force, ce n'est pas un problème de force physique. Ce n'est pas une question que je n'ai pas assez de rouar. Comme je vous ai dit, la nomination des 70, elle va se faire à rouar constant. On va prendre du rouar du rocher et le randonner. Ce n'est pas qu'on va leur donner un rouar supplémentaire. On n'a pas besoin d'un rouar supplémentaire. On a besoin de gens qui soient en phase avec cette demande qui a l'air d'être complètement folle, aux yeux de Moshe en tout cas, de demander ici de la viande. Pourquoi ils veulent de la viande? Ils ont tout. Ils ont la manne. La manne, c'est tout. Ils ont besoin de rien. Ils sont complètement pris en charge par Hachem. Moshe Rabbeinu dit ça, ici, je comprends rien. Je ne peux pas. Il faudrait les images de si j'étais leur père, je pourrais, etc. Et le fait qu'on ait choisi des Shotrim qui ont cette qualité-là d'être justement des gens qui ont compris vraiment la souffrance de gens qui sont leurs proches, mais qui, eux, souffrent d'une manière différente. Et ils ont accepté de prendre sur eux quelque chose qui, normalement, aurait dû tomber sur le dos des autres. Et donc, eux, ces gens-là, ils ont cette proximité avec le peuple. Ils ont ces... Si vous voulez, ce n'est pas directement lié, mais rappelez-vous que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas parler avec Paro. Bon, c'est Aaron qui va parler. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est à un certain niveau. Alors là-bas, c'est particulier parce que la bouche qui va parler de la Torah ne peut pas communiquer avec cet idolâtre de Paro. Il parle avec Aaron et Aaron va parler lui avec Paro. Mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il est à un certain niveau ici. Il peut comprendre certaines choses. Mais demander de la viande dans ces circonstances, ça a l'air complètement incongru. C'est quelque chose d'impensable pour lui. Il dit, je ne comprends rien à ça, donc je ne peux pas les aider. Je ne peux pas, ici je démissionne. Parce que c'est vrai, je ne suis pas adéquat. Je n'ai pas la sensibilité voulue pour... On ne peut pas diriger un peuple si on n'a aucune affinité avec ce peuple. Or, le peuple, jusqu'alors, ça allait. Ce n'était pas terrible, mais ça allait. Mais à partir du moment où ils ont cette demande complètement incompréhensible pour des gens qui sont en train d'être nourris, Minashamaim, quoi, quelque part, qui sont complètement pris en charge, ils sont protégés de tous les côtés, rien ne s'use, etc. Ils n'ont pas à travailler, etc. Et tu veux avoir le goût de la viande? Pense que c'est de la viande, la manne, elle aura le goût de la viande si tu veux. Non, ils veulent de la viande qui soit. Et disent la manne. C'est insupportable, la manne. Ils vont dire plus loin que la manne, c'est alechem akulokel. Ils disent de la manne que c'est un pain cloquel. Cloquel, ça s'écrit kouf lamed. Donc la racine de cloquel, c'est cal. Qu'est-ce que ça veut dire un pain léger? C'est un pain qui, dans lequel, voilà, y a pas de gluten, alors c'est léger. Bon, mais c'est pire que du gluten, de l'absence de gluten. Bon, c'est quelque chose qui. On n'a jamais, quand on est rassasié avec la manne, mais on n'a pas le sentiment d'être rassasié. On n'a pas la peau du ventre tendue, si vous voulez, parce on s'est vraiment rempli. Et cette expérience-là, elle leur manque. C'est une façon de sentir exister.
C'est pas
Si vous voulez, c'est comme si les Bnei Israël, ils étaient en permanence dans une situation de... Comment on dit ça? De quoi? Non, la situation d'une femme qui a accouché. Elle avait le sentiment d'exister, et tout à coup, après l'accouchement, il y a une espèce de dépression, parce qu'il y a une dépression physique qui entraîne chez certaines femmes une dépression qui ne reste pas que au niveau du physique. Donc ils ont ce creux dans le ventre, quoi. On est rassasié, mais voilà. Et bien, ils sont en permanence dans cette situation-là. Pardon? On nous parle nulle part qu'ils ont peur. On ne pouvait pas inventer qu'ils ont peur si on n'en parle nulle part. Mais c'est ça. Non, ce n'est pas une question de peur. On a besoin de se sentir exister. Ils ont peur de rien du tout. Ils sont complètement protégés par Hachem. Mais malgré tout, c'est un sentiment de... Voilà, on a envie de se sentir... La satiété, si vous voulez, c'est quelque chose... Il y a une réalité de la pression, quelque sorte. Une pression ou une dépression, c'est une réalité. C'est pas simplement négatif. Oui, il y a un sentiment de dépression. Et donc là, ce n'est pas une dépression par rapport au passé, mais ils sentent qu'il leur manque cette pression. Et ils disent du mal de cette manne. Ils reçoivent le pain Minashamayim. Et ils disent du mal de cette manne. Mon cher Abenou, il dit là, je comprends rien du tout. Je ne peux plus jouer mon rôle. Je pouvais aller jusqu'alors. Je peux comprendre qu'il y a des difficultés, mais cette demande-là, là, je ne suis plus.
Rav, est-ce
Oui.
qu'on peut dire que Moshe touche la limite de son humilité à partir du moment où il se juge? Jusqu'à présent, il ne se jugeait pas. Dieu fait ça pour mon mérite, il envoie ça. Il se juge. Est-ce pas une atteinte à son humilité?
On ne croit pas que c'est pas un problème d'humilité, c'est un problème de C'est ça qui est très important. Si vous voulez, en quoi est-ce que cette histoire nous concerne? On peut dire, elle n'a rien. C'était un problème, d'accord, c'est tout à fait contingent, c'est un truc qui a eu lieu. Qu'est-ce qu'on va. En quoi c'est devenu de la Torah? En quoi est-ce que c'est devenu un enseignement? Cet enseignement, c'est l'enseignement que nous donne ici Moshe Rabbeinu en disant que pour vraiment s'occuper, prendre en charge des gens, il faut développer des affinités à toutes sortes de niveaux et il peut y avoir une situation dans laquelle on ne peut pas s'occuper de gens si on ne les comprend pas, on ne comprend pas leur démarche, quoi. Si on n'arrive pas à se représenter, se mettre à leur place. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, Moshe, il dit, là, je peux plus. C'est plus possible. Et c'est pour ça que si on regarde par qui il est assisté désormais, il est assisté justement par ses shotrim, par ces gens qui c'est marqué, il y a beaucoup d'assistance, d'insistance sur le. Regardez le texte, il dit, tu vas choisir. Rassemble-moi 70 personnes, Mizikne Israël, parmi les anciens du clan Israël, et puis Asher Yadata, des gens dont tu sais qui aiment Zikne Ha'am Veshotrav, ces gens dont tu sais pertinemment qui sont vraiment les anciens du peuple, c'est-à-dire c'est le peuple les prend pour ses anciens, ils sont les Shotrim, ils sont justement les gens qui ont déjà dirigé le peuple, mais qui ont montré qu'ils allaient payer de leur personne pour diriger le peuple. Et tu prendras, tu vas les prendre, et à ce moment-là, je vais leur transférer un peu de ton esprit pour qu'ils puissent t'aider. Oui. Oui. Eux, ils sont vraiment dans la situation d'avoir construit des relations, c'est des anciens du peuple, c'est-à-dire c'est des gens qui, ils ont dans le peuple, ils ont leurs enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont reconnus comme les anciens, etc. C'est ça me semble-t-il, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu nous démissionne, et c'est très important parce que ça nous donne une idée de ce que doit être un leader dans le clan Israël. À tous les niveaux. On a vu dans la parasha de Bamidbar, on avait vu que le dénombrement s'était fait par famille, par Beth Av, par tribu et à l'échelle du clan. Et on avait expliqué que c'est parce que chacun doit savoir exactement où est sa place dans la famille, où est sa place dans le Beth Av, où est sa place dans la tribu, où est sa place dans le clan Israël. Chacun a une place, et donc, par exemple, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans la tribu ou etc., il y a une hiérarchie. Mais maintenant, qui est-ce qui peut être choisi et être, par exemple, un responsable, jouer le rôle du père dans la famille, jouer le rôle du responsable de la tribu, etc. C'est des gens qui ont des qualités particulières qui les qualifie pour être ça. C'est pas simplement un coup de. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir, si vous voulez. Non. Et cette idée que le roi, parce que même Hachem est le roi, et donc toute personne dans la hiérarchie, dans le clan d'Israël, doit être obligatoirement quelqu'un qui est reconnu par ceux dont il est le responsable ou le chef. Bon, il faut être le Prinat Meller et pas le Prinat Moshel. Le Prinat Meller, ça veut dire un roi reconnu par ses sujets, accepté par les sujets, et qui n'est pas un tyran. C'est la même chose dans une famille. Il faut arriver à créer un climat où les parents sont reconnus comme parents par leurs enfants. Et d'ailleurs, cette reconnaissance des parents comme parents par leurs enfants, ils doivent se traduire par les dinim de Kavod. De Kavod et de Yira, on a par rapport aux parents, pour donner aux parents la possibilité de jouer leur rôle. Que les enfants ont besoin que les parents jouent. Donc ils doivent le donner du kavod, c'est-à-dire du poids, pour jouer leur rôle. Et ça, c'est seulement possible si les parents se sont conduits de telle sorte que les enfants ressentent le besoin, l'intérêt qu'il y a à ce que leurs parents jouent leur rôle de parents. Sinon, penser que les parents sont des empêcheurs de tourner en rond, simplement, ça n'apporte rien. Et donc, il faut que celui qui veut jouer le rôle ou qui doit le jouer, parce que on a vu le recensement qu'on a eu, on n'a pas obligatoirement donné le choix aux gens. On a dit, toi, tu es dans cette famille-là, et dans cette famille-là, tu es le béhor, tu es la grande fille, tu es le père, tu es la mère, etc. Et donc, tu dois jouer ton rôle. Il faut jouer le rôle. Et pour être un manig, il faut comprendre les gens. Parce que sinon, ils ne peuvent pas véritablement te reconnaître comme tel. On va avoir. C'est pas pour rien qu'on commence ici, à l'Otra, une suite de parchiotes dans lesquelles il va y avoir des grandes révoltes contre Moshe Rabbeinu. Korach.
Alors, ce que je comprends ici, c'est que c'est mon cher Adonis qui a montré un niveau de spiritualité tel que ça recoupe en fait complètement des considérations matérielles, mais vraiment devenu une opportunité de prendre en charge à vous. Et c'est juste là.
Avant, parce que jusqu'alors, il ne s'était jamais manifesté avec ce niveau d'incompréhension de la situation dans laquelle les Bnei Israël étaient. Quand ils demandent de la viande, c'est cette nouveauté-là. Pourquoi on nous raconte de la viande? On n'a rien à battre. Qu'est-ce que ça veut bien faire qu'ils demandent de la viande ou des poireaux qu'ils demandent ce qu'ils veulent? Non. Demander de la viande quand on a tout ce qu'il faut. Et même le goût de la viande, ils l'ont aussi. Alors, demandez, on veut de la vraie viande. Ils n'ont d'ailleurs pas reçu de la vraie viande. Parce qu'ils vont recevoir des cailles. Ils vont recevoir de la volaille. Et la volaille, c'est pas de la viande. Ils vont pas recevoir des steaks. Il va pas pleuvoir des steaks. Mais au moment de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, ils étaient complètement dans les vapes. Alors, ils ont rien demandé. On leur a dit, tu fais un pas à droite, ils font un pas à droite. Quand vous comprenez rien du tout, vous pouvez pas commencer à réfléchir, vous n'avez pas, tiens, je voudrais ça, rien du tout. Ils étaient complètement pris en charge. D'ailleurs, vous voyez, la semaine dernière, on a appris dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a dit, pas la semaine dernière, pas la semaine dernière, on a vu que quand on a parlé à Shavuot de ce qu'Hachem a parlé à Moshe, enfin, il a parlé au Aseret HaDibrot. Mais en fait, je vous ai déjà dit, je crois, que le programme d'Hachem, ce n'était pas du tout de parler au Bnei Israël à ce moment-là. Le programme d'Hachem, c'était comme il l'a dit à Moshe. Il a dit à Moshe, je vais te parler et les Bnei Israël vont entendre que je te parle de la sorte, Vegam Becha Yaaminu Leolam, de telle sorte que ils aient confiance en toi, pas seulement maintenant parce que tu viens de les sortir d'Égypte. Jusqu'à présent, l'autorité de Moshe Rabbeinu, elle était indiscutée. Et on ne pouvait pas discuter, c'est le bonhomme qui vous a sorti. Ils se trompaient, eux. Ils sont même trompés, ils pensaient que c'est Moshe qui les a sortis, mais même si c'était Moshe dirigé par Hachem, même s'il avait compris comme ça, on ne peut pas discuter l'autorité. On lui doit tout. C'est sans lui, on n'a rien. Mais maintenant on nous raconte maintenant des pérégrinations, ils ont reçu la Torah, etc. Et maintenant, on nous raconte le mouvement qui normalement devrait les amener en Eretz Israël. Ils ne sont pas encore disqualifiés. Donc en fait, ils sont à quelques jours de marche d'Eretz Israël. Ils vont y arriver. Et tout à coup, boum, qu'est-ce qui arrive? On veut de la viande. On veut de la viande, ça veut dire quoi? Vous êtes tombés. Mon cher Abel est tombé des nues, probablement, là. Il dit, non, je peux pas. Moi, j'ai rien à voir avec. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, je ne peux pas leur donner de la viande, j'en ai pas. Et ça veut dire, tout à coup, il panique complètement, mon cher Abel. Qu'est-ce que tu me demandes? Normalement, mon cher Abel aussi, s'il comprenait la démarche, il aurait dû dire, Hachem, les Bnei Israël, ils veulent de la viande, donne-leur de la viande. Mais il fait pas ça. Il peut pas. Il comprend même pas ce qu'ils veulent. Pas comprendre. Oui.
C'est en dépôt de sa tâche. Il faut voir une sorte de balance entre les peuples, mais est-ce qu'on doit effectivement que les peuples deviennent chers à vos parce que.
Lui, mon cher Abel, il pense, je suis plus adéquat. Tout seul, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas du tout. Il dit pas qu'il n'est pas bon, qu'il n'en sait pas. Ben, du tout, je ne peux pas. Je ne peux pas répondre à ces demandes-là. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Hachem lui dit pas. Normalement, Hachem devrait lui dire, mais c'est moi qui vais leur donner. Non, il dit, oh, t'as raison. Ok, alors on va ajouter des gens. Qu'est-ce qu'on va ajouter des gens? Il y a des gens qui sont plus capables que mon cher Rabbeinu de diriger. Oui, il y a des gens qui sont plus capables dans cette situation-là. Avec ce que les Bnei Israël viennent de dévoiler là, on a besoin des gens qui fassent le lien avec le ras de terre que les Bnei Israël sont en train de manifester, quoi. Ils ont. Pardon?
Est-ce que l'on sait comment les anciens ont fait pour amadouer les Israël pour les rassurer
Mais oui, ils pouvaient leur parler. Ils leur ont dit, oui, on va vous en donner, vous allez en avoir. Ils ont compris. Pardon? Et pour pouvoir leur parler, il faut que vous compreniez que on ne peut pas parler vraiment avec quelqu'un. Si on n'a pas de langue commune, quelque part, il n'y a pas de langue commune entre des gens qui vous demandent, dans un état pareil, vous demandent de la viande. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont sortis des camps, quand crevaient de faim, etc., pensez qu'ils ont demandé, ben, on voudrait plutôt du canard que du poulet, etc. On peut s'occuper des choses pareilles. Et c'est de ça qu'on parle. Depuis le début, on parle de ça, Claudine. C'était pas des rescapés des camps, je suis d'accord. Je vous dis seulement, vous voyez bien qu'il y a des situations dans lesquelles certaines questions, certaines demandes sont complètement incongrues.
Un petit peu comme ça, qu'est-ce qui transparaît à travers leurs demandes? Ils ont besoin d'être
Ce qui
rassurés.
transparaît à travers leurs demandes, c'est qu'ils n'ont rien compris.
Voilà, ça c'est pour ça
Donc,
que
mon
ça.
cher Abbé, il n'est pas. Le but de l'exercice, ce n'était pas de faire sortir des gens d'Égypte pour le plaisir de les faire sortir. Ils sont sortis pour recevoir la Torah. Est-ce qu'ils sont en chemin pour recevoir la Torah ou pour mettre la Torah en œuvre en demandant de la viande à ce moment-là?
Israël enfermé en Égypte pendant des siècles, avoir la Torah. Je veux dire, c'est une bonne phrase, mais je dis pas, mais.
Ok, mais ok. Simplement, ils ont fait un travail qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Comment une bande d'anciens esclaves libérés en 50 jours sont arrivés au niveau où les Bnei Israël sont arrivés de pouvoir entendre Hachem leur parler à Moshe Rabbeinu, recevoir les Aseret HaDibrot, etc. Personne ne peut
Ça, c'est
comprendre. On n'y comprend rien, mais Ils ont été portés, mais certains disent que c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. D'ailleurs, c'est des fois il y a des choses qui, Hazal disent, il y a des fois des choses qui nous sont rapportées et qu'il fallait que les Bnei Israël fassent cette expérience de savoir qu'il y a des situations dans lesquelles on va trop vite. Quand ça va trop vite, ça marche pas. De la même manière que ça explique que les premières lourotes, ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de pubs. Le son et lumière qu'il y avait là, c'était beaucoup trop grand, beaucoup trop énorme. Les deuxièmes lourotes, elles ont été données en catimini quasiment. Les premières, Chazal disent, trop de pubs.
C'est le truc des Akènes. J'imagine comme un grand-père qui va leur parler. Il a la sagesse, il a la connaissance, et il va parler avec, comme vous avez dit, avec leurs mots, et il va aller
Alors,
doucement,
Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas. Moshe Rabbeinu, il est estomaqué quand les Bnei Israël, il me demande de la viande. Non, je ne peux pas. S'il demande ça, je ne peux plus. Pourquoi il n'a pas dit, il demande, il y a de l'eau amère, quoi. Ils ne sont pas capables de s'imaginer qu'on va arranger, l'eau va s'arranger, on va l'adoucir, etc. Non. Non, d'accord. Ils veulent de l'eau douce. Il a prié Hachem, Hachem lui a montré un bois. Il a mis ce bois dans l'eau, ça adoucit l'eau, c'est terminé. Ici, il aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il voulait de la viande? Oui, bien sûr, vous allez en avoir. Encore de beaucoup, envoie-leur de la viande. Pourquoi il démissionne? OK. On va là-dessus. Bon, c'est ça la leçon sur ce point-là. Il y a une. Toujours dans ce chapitre 11, un peu plus bas, au verset 17, là où on s'est un peu arrêté, Veitiatzvu Sham Imach, donc les Bnei Israël sont avec toi, les 70 Zekenim sont avec toi dans le Mishkan, Vesamti Aleem, Venasu Ils vont porter avec toi le peuple et tu ne vas pas porter tout seul. Donc, sur ce verset où Hachem dit Ve Alors, cet esprit que je vais enlever, prendre chez toi et déposer sur eux. Les Bnei Israël se plaignent de la monotonie de la manne. Et ils demandent à Moshe de leur fournir de la viande. Ultimement, après avoir reçu cette aide, Moshe va demander à Hachem. Et il va dire, comme on vient de voir, il va démissionner. Rashi explique qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était comme une bougie, si vous voulez, bien qu'on puisse allumer plusieurs bougies à partir de la flamme d'une bougie, ça n'enlève pas, ça diminue pas la flamme directement. Donc, bien que Hachem ait pris du rouar, donc de l'esprit, de la prophétie, etc. C'est essentiellement la prophétie dont on va parler par la suite. Chez Moshe Rabbeinu, et qu'il l'a mise, cette prophétie, sur les Zkenim, sur les 70 anciens, ça n'a rien enlevé à Moshe Rabbeinu. Bien sûr qu'Hachem aurait pu donner à chacun d'entre eux la prophétie individuellement. Pourquoi est-ce que Hachem a choisi que ça continue d'être avec la prophétie de Moshe Rabbeinu? On prend de la prophétie de Moshe Rabbeinu et on la l'étend à eux, sur eux. Et la réponse, c'est que la Torah, elle doit être transmise d'un maître à un élève. L'élève, quand il étudie sous la direction d'un maître, quand il observe le maître qui lui enseigne, il développe sa propre spiritualité. Que ce soit dans la Chassidoute, avec un rebbe, que ce soit Rabbi Israël Salanter, par rapport à ses élèves dans le mouvement Moussa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manquent justement de cette connexion à un guide spirituel. C'est très important de développer cette connexion maître-élève. C'est comme ça que fonctionne la Torah. Il faut impérativement veiller là-dessus. C'est un enseignement de Rav Volbe qui considère que ici, la raison pour laquelle ça s'est fait comme je dis, à Roi constant, c'est pour que il soit bien clair que le clan d'Israël, il apprend la Torah d'un maître, c'est Moshe Rabbeinu. Même avec le Sanhédrin qui vient assister Moshe, c'est pas le Sanhédrin qui va devenir le maître. C'est toujours la maîtrise, le réveil, c'est toujours ici Moshe. À la fin de la paracha, la Torah raconte que Aaron et Myriam ils ont parlé de leur frère Moshe. Et d'un côté, il y a les critiques qu'ils ont eues contre Moshe. Et le passouk dit que Aish Moshe Anav Meod. Il est excessivement humble, plus que toute personne sur la terre. Et Rashi traduit Anav en disant qu'il est modeste et il est tolérant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a toléré leurs critiques. Il n'aura pas voulu à Moshe, à Aaron et Myriam. Cette tolérance, elle est fondamentale dans les relations interpersonnelles. Le Halter de Kelm, le Rav de Kelm, il écrit: ce serait tellement grand si on pouvait s'habituer d'agir avec tolérance. Lui dit, c'est en fait la racine de toutes les bonnes qualités, en fait, toutes les bonnes midot. C'est une source aussi de sérénité. D'accord? Ne pas grimper au mur chaque fois que quelque chose se fait qui ne nous plaît pas. Il faut aussi être tolérant par rapport à soi-même. C'est un enseignement de Rav Volbe de nouveau. En fait, on veut tous travailler, on veut tous essayer de devenir plus grand, devenir meilleur, mais on rencontre une difficulté constante. Une après l'autre, il y a des difficultés de tous ordres. Des fois, on a l'impression que le Sahara, il veut nous arrêter, nous empêcher de grandir à tout prix. Des fois, d'accord, on n'a pas la force de continuer. On a perdu de vue le but qu'on s'était donné. Celui qui perd patience dans son travail d'Avodat Hashem, il va abandonner ou il va devenir dépressif. Bon, il y a rien de plus négatif par rapport à l'Avodat Hashem que la dépression, bien sûr. Des fois, on pense, si seulement j'étais capable de faire je m'en essaierais de faire une Amida complète avec Kavana, en me concentrant vraiment. Ma journée serait complètement différente. Ou alors, si j'arrivais à maîtriser une ou deux de mes mauvaises midot, je deviendrais une autre personne. C'est possible. Mais il y a un midrash très important à ce sujet-là. Hachem n'attend pas de nous plus que ce que nous pouvons faire. Hachem sait très bien quelles sont nos limites, nos faiblesses. Il n'attend pas de nous qu'on maîtrise tout ça en un jour, ni en une semaine, ni en un mois, ni en un an, et peut-être ni en plusieurs années. La Gemara, elle dit que il y a l'équivalent de ce qu'en français on dit. Trop embrasse mal étreint. Bon, c'est-à-dire, des fois, c'est le Yetzirah qui vous conseille de s'engager dans une démarche qui est beaucoup trop exigeante et qui va obligatoirement échouer, qui va nous rendre dépressifs et on n'arrivera à rien. Alors que si on avait fixé un objectif beaucoup plus petit, beaucoup moins spectaculaire, etc. Celui-là, il est possible de l'atteindre. Et puis ensuite, on peut en fixer un deuxième. Le Gaon de Vilna, il explique en passouk dans Michelet, un homme, par sa folie, en quelque sorte, il choisit le mauvais chemin. Mais du coup, son cœur en veut à Hachem. Ça veut dire, des fois, quelqu'un peut, bon, le Rav Volbeit, il le disait en termes de limoud, quelqu'un commence à étudier la Torah, il commence à servir Hachem, et ensuite, il arrête parce que c'est trop difficile. Et donc, il en vient à penser que Hachem ne l'a pas beaucoup aidé, pas assez aidé. Et donc, il en veut à Hachem pour m'avoir abandonné, pour l'avoir abandonné. Cette personne, elle a fait son propre malheur. Parce que elle a voulu aller trop vite dans la Avoda. Donc elle n'a pas choisi le bon rythme. S'il était allé plus lentement, alors Hachem l'aurait assisté, il l'aurait aidé mieux. Donc la tolérance, c'est pas seulement une vertu. Quand on s'est aperçu que on n'a pas réalisé le programme qu'on s'était fixé, C'est une mida qu'on doit utiliser lorsque on prévoit, lorsqu'on fait des plans. C'est pas seulement dans la réalité, dans l'action, mais au niveau des plans, il faut avoir de la tolérance par rapport à soi-même. Il faut accepter que on a des mauvaises midot et que ces mauvaises midot, elles vont se manifester. Et donc, il faut prendre du temps pour régler ça. C'est comme ça que les choses peuvent s'arranger si on fait des plans qui correspondent, en fait, au niveau où nous sommes réellement. Si on fait des plans qui ne nous correspondent pas vraiment, alors on va se casser la figure. Quand les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, après la deuxième parole dans les Aseret HaDibrot, ils ont dit à Moshe, parle-nous toi. On ne supporte pas que Hachem nous parle, parce que quand Hachem nous parle, on meurt. C'est vrai qu'on ressuscite, mais on a peur, on ne veut pas. Alors, le texte, par la suite, il dit que c'est bien. Et quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas comment ça pouvait être bien. C'est un désastre. S'ils avaient entendu les 10 paroles jusqu'au bout, on aurait. Ça va, le monde serait arrivé à son but. Et parce qu'ils n'ont pas eu cette force de continuer d'écouter, y compris de mourir, de ressusciter, etc. Pas eu confiance, c'est désastreux. Mais en fait, il faut comprendre que, étant donné que les Bnei Israël étaient à ce niveau-là, alors c'est bien qu'ils aient dit, on n'a pas la force. Parce que s'ils s'étaient forcés d'écouter alors qu'ils ne le peuvent pas, alors ça aurait pu donner un désastre bien plus grave que le fait de. Bon, on n'est pas à la hauteur, alors on va l'entendre par Moshe Rabbeinu. Ils auraient pu craquer de façon terrible s'ils avaient essayé de se forcer à écouter alors qu'ils n'étaient pas capables d'écouter. Il ne faut pas s'imaginer que dans ce cas-là, c'était dommage qu'il ne se soit pas forcé. On ne peut pas se forcer dans ce genre de choses. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien entreprendre, mais il faut essayer d'évaluer, essayer de savoir où est-ce que j'en suis pour savoir qu'est-ce que je peux faire, en fait. À quoi je peux m'engager sans que ce soit en vérité, un engagement voué à l'échec. Ouais, c'est bon. Donc, à la limite, mon cher Abeinu, il ne leur en veut pas obligatoirement. Il dit, avec une demande comme celle-là, je ne peux pas jouer le rôle. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, OK, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus de prophéties, de plus de chokhma, de plus d'énergie, etc. Il faut juste qu'il y ait des gens qui soient capables d'entendre le langage tenu par les Bnei Israël à ce moment-là. Est-ce que toi, tu n'es pas capable? Non. Hachem dit, c'est Hachem qui dit à ce moment-là. Hachem dit, vous demandez de la viande, vous allez en avoir jusque-là. D'accord? Ça va vous sortir par les narines. C'est-à-dire que quelque part, Hachem pense qu'ils auraient, si Hachem le dit, donc ça veut dire qu'ils n'auraient pas dû demander de la viande. C'est pas seulement Moshe qui pense comme ça, Hachem aussi pense comme ça. Sinon, on ne l'aurait pas dit, vous allez en avoir jusque-là. S'il demandait quelque chose d'acceptable, bon, ben, on va leur donner. Hachem leur donne, mais il dit, mais ça veut dire que vous comprenez tellement pas que on va vous en donner tant et plus et vous arrêterez pas à temps jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus non plus de ces caries. Lorsque Aaron et Myriam ont parlé de Moshe, ils ont dit la Shonara de Moshe, comme vous savez que ce qu'ils critiquaient chez Moshe, c'est que Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, il a décidé qu'il devait se séparer de sa femme. Il n'a pas reçu d'ordre à ce sujet-là. C'est une des trois choses que Moshe a faites de sa propre initiative, briser les tables, ajouter un jour supplémentaire et se séparer de Tsipora. En justifiant sa démarche, en disant, je vois bien que les Bnei Israël, quand ils doivent entendre, comme ils demandent à entendre la parole d'Hachem, Hachem leur dit, vous devez vous séparer de vos épouses, et moi, je suis sans arrêt susceptible de recevoir la parole d'Hachem, donc je ne peux pas vivre une vie normale. Et le raisonnement très curieux d'Aaron et de Myriam, c'est de dire, mais nous aussi, on est prophètes, c'est vrai. Aaron est prophète, Myriam est prophétesse, et pour autant, on ne s'est pas séparé de nos conjoints. Pourquoi est-ce que lui se sépare de son conjoint? Parce qu'il est prophète. Là encore, on voit que bien que ce soit Aaron et Myriam, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas du tout la différence entre leur prophétie et la prophétie de Moshe. Sinon, ils n'auraient jamais posé la question. Ils n'auraient jamais critiqué. Alors, Moshe, Hachem leur dit, mais les prophètes, tous les prophètes, sauf Moshe, tous les prophètes, Hachem ne leur parle que dans un rêve ou quand ils tombent en syncope. Aucun prophète ne reçoit la parole d'Hachem en état de veille. Alors que chez Moshe Rabbeinu, je lui parle panim el panim. Je lui parle bouche à bouche, visage à visage. Il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de devinette, etc. Tout est clair avec Moshe Rabbeinu. Avec tous les autres prophètes, s'il y a une ambiguïté dans ce que je dis, etc. Chazal explique dans la Gemara la différence entre la prophétie de Moshe et celle de tous les autres prophètes. On utilise une expression aspaclaria. Sheena Meira et Aspaklaria a Meira comme différence. Bartenura, il explique que Aspaklaria, c'est un miroir. Le Ramchal, il écrit que les hommes sont, en quelque sorte, ou disons, le comportement des hommes doit ressembler à ce qu'on attribue comme comportement à Hachem. Et comme Hachem veut se révéler d'une manière que le peuple peut le comprendre, donc il a fabriqué les hommes de telle sorte qu'ils soient suffisamment à l'image d'Hachem pour qu'ils puissent recevoir le message qu'Hachem veut leur donner. Donc si quelqu'un développe la qualité de chesed, alors il va pouvoir comprendre la qualité de chesed, du chesed divin. Et donc, dans la mesure où on va se parfaire, en quelque sorte, on va pouvoir percevoir Hachem. Ça veut dire que nous sommes un reflet, comme un miroir en quelque sorte, qui montre à quelqu'un sa propre image. Alors, mon cher Rabbeinu a travaillé sur ces midot, parce que mon cher Rabbeinu, vous connaissez, il y a un midrash qui raconte que il y a un roi qui a appris, il a entendu parler de Moshe, et il s'est dit, on lui a demandé, enfin, il s'est demandé comment est-ce qu'on raconte tellement de choses sur ce Moshe, et il a envoyé un psychologue voir Moshe, faire son portrait psychologique. Et le psychologue, quand il est revenu, il a fait le portrait qui n'était pas du tout un portrait tellement positif, parce que c'était une espèce de psychologue qui pensait que on pouvait lire les midot de quelqu'un sur son physique, quelque part. Et le roi a dit, c'est pas possible, ce que tu me racontes, ça peut pas être le portrait de Moshe. Donc il a envoyé un peintre faire le portrait de Moshe. Et le peintre, il est revenu avec une image, à peu près un gangster, quoi. Figure de gangster. Le roi a dit, c'est pas possible. Alors, il est allé voir lui-même, et quand il a vu Moshe, il m'a dit, mais comment c'est possible? Alors Moshe lui a dit, tu crois que j'ai pas dû travailler pour arriver à ce à quoi je suis arrivé? Donc, mon cher Rabbeinu, il a travaillé sur son miroir, en quelque sorte, spirituel, de telle sorte que ce miroir lui permette de percevoir Hachem. Quand il se regarde, il doit être un miroir d'Hachem, donc il veut pouvoir voir Hachem, en quelque sorte, avec la plus grande clarté possible. C'est ça qu'on appelle Aspaklaria Amira, c'est-à-dire lumineuse. C'est-à-dire un miroir qui est lumineux, qui donne un très bon résultat, en quelque sorte. Par contraste, tous les autres, y compris prophètes, il leur manque des éléments de la perfection qui leur permettent de voir vraiment Hachem dans le miroir en question. Myriam était une grande femme, effectivement, une prophétesse depuis sa prime jeunesse, en fait. Mais elle ne pouvait pas comparer, en vérité, sa perfection spirituelle, ses capacités prophétiques à celles de son frère Moshe. Chazal décrivent la prophétie de Moshe de telle sorte que ça nous donne une idée de la grandeur. Sa grandeur. Nous, on veut aussi se connecter avec Hachem, de la manière dont on est capable de le faire. Mais en prenant exemple sur Moshe, en perfectionnant notre caractère, alors on pourra un petit peu se connecter avec lui. Et même, en fait, d'une manière qu'on aurait pu penser être complètement impossible. Ça veut dire, en travaillant sur soi, on arrive à des résultats, dit le Revolvé, des résultats complètement imprévisibles, complètement impensables. On n'a pas idée de ce à quoi on arrive en travaillant sur soi. Alors, on n'arrive pas, on ne va pas être Moshe Rabbeinu demain matin, ni demain après-midi, mais on peut se connecter d'une certaine manière avec Hachem. C'est le but de l'exercice. L'alliance que Hachem a faite avec le clan d'Israël, ça donne la possibilité d'une alliance avec chacun d'entre nous. L'alliance, elle est faite avec l'ensemble du clan d'Israël, mais elle peut déboucher comme une alliance avec certaines personnes, dans la mesure où ces personnes ont fait ce qu'elles pouvaient pour essayer de se perfectionner et se rendre capables d'approcher, enfin, le modèle d'Hachem. Il faut bien comprendre que toutes les midot qu'on attribue à Hachem, on dit Hachem, il fait tous les anthropomorphismes qu'on attribue. C'est pas du tout que Hachem, il a obligatoirement ça. C'est une façon de nous dire que Hachem pense que ça, ce sont des bonnes midot. Une façon de nous dire que c'est bien d'avoir telle ou telle qualité, au lieu de dire c'est bien d'avoir telle qualité, on dit Hachem, il a cette qualité. Et après, on nous dit, tu dois essayer de copier Hachem. Si on avait seulement dit, c'est une bonne qualité, on n'aurait pas compris que c'est tellement fondamental. En disant que c'est une qualité divine et qu'on est appelé à essayer d'imiter, alors on vise un peu plus haut. Oui. Là, ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles la colère ou la jalousie sont mauvaises en général, mais il y a des moments où la colère et la jalousie éventuellement doivent s'appliquer. Par exemple, la jalousie, on dit, en hébreu, ça se dit la kina, mais on dit kina sofrim, la kina entre les savants, des gens qui étudient, c'est une bonne chose. Cette émulation est bonne. Donc c'est du bon usage de la jalousie. Il y a du bon usage de la colère. En général, à ce que je sais, c'est jamais la vraie colère. C'est du bon usage de la colère, ça veut dire du bon usage d'un visage qui montre qu'on est en colère alors qu'on ne l'est pas. Des fois, c'est nécessaire, Chazal dit, il faut, pour éduquer les enfants, des fois, il faut leur montrer qu'on est en colère, mais il ne faut surtout pas être en colère parce qu'on ne peut pas éduquer quand on est en colère, vu que quand on est en colère, on est hors de nous. Quelqu'un qui est hors de soi, il ne peut pas éduquer qui que ce soit. Mais des fois, il faut essayer. En général, ça ne marche pas parce que on n'est pas assez bon comédien. Voilà, on va s'arrêter là.